Bonjour à vous tous, et Dieu vous aime. Il y a un écrit que j'ai lu ces jours-ci par un homme, un philosophe. Les jeunes qui font philo en ce moment vont reconnaître son nom. C'est Rémi Brague. J'espère que vous n'aurez pas de questions à son sujet. Il a commencé, paraît-il, à écrire un livre pour prouver que l'humanisme n'amenait nulle part. Et puis, il est arrivé à la conclusion qu'il y avait un Dieu. Et puis il est arrivé à la conclusion que Dieu aimait. C'est pas formidable ça? Dieu aime. Et ce matin, j'aimerais vous dire que Dieu nous aime. J'ai le titre de ce que je veux partager avec vous qui va venir là. L'Éternel est. Qu'est-ce qu'il est pour vous ce matin? Qu'est-ce qu'il est pour moi? Un Dieu lointain? Un Dieu dont nous avons entendu parler? Tout à l'heure, Lydia a mis tout le monde au pied du mur. J'espérais qu'elle n'allait pas venir me flanquer le micro sous le nez quand même. Mais nous a mis au pied du mur. Mais peut-être si elle avait posé la question, mais est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu t'aime? Comment est-ce que tu conçois le Seigneur ce matin? Il y a un homme qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie, comme nous tous. Il était berger à un moment donné, il était roi à un autre moment. Je n'étais ni l'un ni l'autre, moi, ni berger ni roi. Et puis il a écrit un psaume. Il a intitulé « L'Éternel est mon berger ». Alors j'aimerais vous parler du berger ce matin. Parce que Dieu se révèle de différentes manières. Il se révèle en montrant qui il est. Il se révèle en montrant ses dons et ses caractéristiques. Alors, vous avez là sur le tableau le passage. Moi, je suis un petit peu craintif. Je me demande si le fait que tout paraît là-haut veut dire qu'on n'apporte plus nos Bibles au culte. Je ne dis rien à personne, mais c'est dommage, ça. Une Bible, c'est pour être utilisée, lue, soulignée et méditée. Ne rougissez pas parce qu'une bonne partie de l'auditoire va rougir à ce moment-là. Peut-être même ma femme parce que j'ai oublié de lui passer sa Bible ce matin. Alors j'aimerais vous lire dans Luc 15. Et c'est au verset, dans ce passage, 3 à 7. Mais il leur dit cette parabole, cette histoire qui explique des choses, qui les souligne. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse pas les 90 autres dans le désert, d'autres passages disent dans la bergerie, pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et puis j'aimerais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, et ceux qui ne connaissent pas ces passages, essayez de les revoir tout à l'heure à la maison. Je ne vais pas lire jusqu'au verset 48, ça c'est une faute de frappe là. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point dans la porte de la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Et puis un verset un peu plus loin là, versets 9 et 10. Moi je suis la porte de la bergerie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Verset 11, « Moi je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. » Cette illustration d'un berger est fantastique pour décrire comment est la personne du Seigneur. Je ne sais pas où nous en sommes tous avec le Seigneur ce matin, mais quand j'entends le mot « berger », je pense à des moments où je suis découragé et je pose ma tête sur les épaules de ma femme. Ça ne vous arrive pas, les hommes, vous êtes trop... Non, ça ne vous arrive jamais. Et les femmes, quand ma femme est découragée et qu'elle pose sa tête sur mes épaules. Ce tableau du berger qui aime, qui s'intéresse, qui se préoccupe des uns et des autres. Alors j'aimerais vous parler de la bergerie typique en Palestine de ce temps-là. Il y avait souvent jusqu'à 3 troupeaux différents qui se trouvaient dans la bergerie, amenés par leur berger respectif. Mais chacune des brebis reconnaissait la voix de son berger. Tu nous as posé cette question-là tout à l'heure, Lydia. Est-ce que nous reconnaissons la voix du berger? Est-ce que nous écoutons la voix du berger? Je me souviens que j'étais en pleine étude à la faculté de théologie comme étudiant, avec les découragements qui viennent quand on étudie la théologie. Et un des professeurs s'est levé pour dire que « Est-ce que vous écoutez le Seigneur ?» Et je me suis posé la question de si j'ai écouté le Seigneur. Puis il a dit ceci, si vous écoutez le Seigneur et vous ne l'entendez pas, écoutez, et c'est là où vous l'entendrez. Vous avez suivi? Si vous ne l'entendez pas, écoutez, et vous l'entendrez. Il veut nous parler dans la douceur. Mais aussi de mauvais bergers, l'étranger qui utilise la force et la violence pour se faire obéir. Et les brebis ne le suivent pas parce qu'ils ne reconnaissent pas sa voix. Pour nous, ça veut dire que nous devons être des hommes et des femmes aiguisés dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour savoir ce qu'elle nous dit, ce qu'elle dit vraiment. Contrôlez tout dans la Bible. Je vous le recommande. Contrôlez ce que je vous dis ce matin dans la parole de Dieu. Mais faites-le. Ne parlez pas uniquement de cela. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, il y a un don dans les communautés, dans les églises chrétiennes évangéliques et ailleurs aussi quelquefois, le don de pasteur-berger. C'est un peu le même mot, hein? C'est une tautologie de dire pasteur-berger. C'est le même mot, le même rôle. Ce n'est pas un office dans la Bible, mais c'est un ministère, un service pour le Seigneur. Et c'est important qu'il soit exercé par les uns et les autres, et important qu'il soit exercé par les responsables de la communauté en particulier. Un ministère pour amener les brebis vers le divin berger. Ma tâche, c'est de disparaître. Ce n'est pas d'attacher les gens à moi en tant que serviteur de Dieu, de pasteur. Et c'est d'amener les gens pour qu'ils s'attachent à Jésus-Christ, qu'ils aient plus besoin de moi parce qu'ils ont une relation intime avec le Seigneur. C'est ça qui est si important. Et Esaïe nous rappelle ce qui est arrivé dans nos vies. Nous étions tous errants comme des brebis. C'est vrai? Est-ce que nous l'avons admis? Est-ce qu'on est toujours en train d'être errant, d'aller par notre propre chemin? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Oh, ça, c'est typique de chez nous, ça. Hein? Quelqu'un dit un jour que la chambre des députés n'était pas assez grande, qu'il aurait fallu, non, 650 places, ou 647 places, je crois. N'allez pas contrôler, je peux me tromper. Mais il aurait fallu 60 millions de places, parce que chacun a son avis personnel. Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait tomber toutes leurs fautes sur le Seigneur. C'est comme ça que Jésus-Christ est devenu le divin berger. Et Jésus-Christ, en parlant de ce thème, le berger, savait combien c'était important. Et c'est encore important aujourd'hui, parce qu'il disait que la foule devant lui était comme un troupeau sans berger. Un troupeau sans berger. Et c'est l'expérience que je vis quand je voyage d'église en église, de trouver des églises qui se dissipe à droite et à gauche parce qu'il n'y a pas de berger qui prie, qui pleure, qui est conscient de ses limitations. Moi, je suis terriblement conscient de mes limitations, terriblement. Quand je dois rencontrer quelqu'un pour parler du Seigneur Jésus, je dis, Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Un jour, il y a un de mes enfants spirituels qui m'a fait un complément extraordinaire que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, quand je viens te voir, c'est formidable. Alors, j'ai dit, finalement, je suis arrivé là. Je suis tellement reconnaissant des entretiens qu'on a ensemble. Il dit, oui, Bernard, c'est parce que tu ne dis rien. Tu m'écoutes. Tu ne dis rien. Tu m'écoutes. Et un berger, c'est une bonne partie de son travail. Nous avons les bergers qui font partie du conseil de l'Église. Il y a d'autres bergers et bergères dans l'Église. Des frères et sœurs qui ont un ministère. Des bergers et des bergères pour les plus petits, les plus jeunes que vous et moi, sont aussi importants. Le divin berger a mission, comme mission d'aller chercher celles qui ont suivi leur propre chemin et qui se sont égarées. Ceux qui ont suivi leur propre chemin et qui se sont égarés. Cette semaine, vous allez rencontrer du monde. Quand je vais rencontrer du monde, je vais être dans mon champ d'évangélisation préféré en ce moment. J'ai au moins 3 ou 4 médecins à voir avec Hélène. Et j'aime beaucoup, beaucoup aller voir les médecins parce que je coupe leurs paroles avant qu'ils aient l'occasion de me dire, monsieur, comment allez-vous? Je dis, docteur, comment allez-vous? Parce que je sais souvent qu'ils ont des fardeaux, des problèmes. Et les personnes que vous allez rencontrer cette semaine ont besoin de bergers, de bergères. Vous direz, mais je n'ai pas d'expérience. Je vous cite le proverbe que nous connaissons tous. Hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en servant le Seigneur. Je suis allé dans une assemblée en Suisse où il y a un de mes enfants spirituels qui est pasteur. Il m'a cherché à la gare pour aller au culte. Il m'a dit, tu sais pourquoi je prie dans l'assemblée? Il était pasteur de cette communauté de 200-250 personnes. Il m'a dit, je prie pour que on ait... J'ai dit, quoi? Tu pries pour quoi? Pour qu'on ait 200 pasteurs dans mon église. Comme ça, je peux en aller. J'ai compris ce qu'il voulait dire. Pas 200 personnes avec des idées différentes. Pas pour se séparer en petits groupements. Pas pour tirer les gens de notre côté. Mais ceux qui ont à cœur les uns et les autres. Ceux qui ont à cœur ceux qui passent par le deuil. Et il y en a qui passent par le deuil dans notre milieu ce matin. Et que le berger soit proche de chacun, chacune d'entre vous. Il y en a qui passent par le moment de ne pas avoir de travail. J'ai passé beaucoup de temps avec ma petite fille hier. Elle voulait changer d'école. J'ai dit, mes chéris, je veux que tu me dises tout ce que tu penses, tout ce qui te préoccupe. Je te promets, je ne dirai pas plus rien. Et j'aimerais te dire que tu peux me téléphoner à n'importe quel moment pour me dire des choses. Elle a commencé à me parler. Je ne vais pas vous dire ce qu'elle m'a dit. Je ne l'ai même pas dit à ma femme. Surtout pas à sa maman, ni à personne d'autre. Mais au Seigneur, c'est à lui qu'il faut le dire. Il faut dire que quelquefois, l'égarement est dû au mauvais berger. J'ai la tâche triste quelquefois d'aller dans des églises qui ont vécu des divisions, des problèmes, dans le midi en particulier. Peut-être dans le midi, on se divise plus facilement, j'en sais rien. C'est parce qu'on parle tellement plus facilement, peut-être. Et d'arriver là et d'essayer de voir pourquoi cette division-là. Tu as suivi quelqu'un. On n'est pas là pour suivre quelqu'un. On n'est même pas prévu pour suivre quelqu'un. On est là pour suivre le divin berger. On n'est pas là pour suivre les uns les autres, mais pour suivre le Seigneur Jésus, pour être attaché à lui. Et dans le livre d'Ézéchiel, Je vous décommande sa lecture parce que ce livre est assez compliqué. Je vois que Raymond sourit, il va vous l'expliquer un jour. Le livre d'Ézéchiel est assez compliqué, mais il dit les vérités, pas de la palisse, mais les vérités quelquefois. Des choses que personne d'autre n'avait peut-être le courage de le dire. Il en parle, il dit, vous, les bergers, il dit, vous avez heurté et frappé de vos cornes les brebis faibles. Et moi, j'ai fait ça. Vous n'avez peut-être jamais fait ça. Moi, j'ai fait ça. Quand j'ai voulu prouver que j'avais raison et que l'autre avait tort, moi, j'ai fait ça. Alors, les mauvais bergers de ce genre peuvent faire un travail tellement triste et ont besoin de demander pardon au Seigneur. Le bon berger ne nous dirige pas avec un bâton, mais avec... Alors, je vais t'apporter le micro maintenant. Hein. Comment est-ce qu'il nous dirige? Pas... Pas sa voix. C'est ça qu'elle allait dire en tout cas. Il nous dirige par sa voix dans la parole de Dieu. Et il nous indique par ses bras le chemin. L'Éternel est mon berger. C'est pas formidable cela? Ça ne vous fait pas frémir de joie? Tout à l'heure, on a chanté un cantique, mais on n'a pas bien chanté parce qu'il n'y avait pas l'accent. Mon cœur chante. Vous savez ce que ça veut dire dans le midi? Mon cœur chante. Vous mettez des gens du midi devant mon repas, ils disent tout de suite, mon cœur chante. Et devant le Seigneur, mon cœur chante. L'Éternel est mon berger. Ça me fait chanter ça. Et le Seigneur veut devenir ton berger ce matin. Amis chrétiens, arrête d'essayer de voir les solutions toi-même tout seul. Va vers le divin berger. Arrête d'essayer de trouver l'église parfaite. Parce que j'ai déjà demandé qu'on me donne l'adresse quand on la trouvera, parce que je ne l'ai jamais trouvée jusqu'à présent. Arrêtez cela. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est mon berger. Ça, c'est une relation personnelle de voix et d'écoute, de voix et d'écoute. Que le Seigneur parle et que j'écoute. Et je n'écoute pas pour oublier. J'écoute pour apprendre. J'écoute pour mettre en pratique. J'écoute pour partager. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. On n'a pas besoin de cela? On a envie de ça? Les prairies verdoyantes, c'est le tableau des passages dans l'Écriture. On commence à voir le cœur qui chante. Vous voyez maintenant que vous lisez la Bible. Et que vous chantiez avec la Bible. Je ne sais pas si vous suivez les notes de la Ligue pour la lecture de la Bible. J'ai dit à Joanna qu'il me devait des droits de copyright parce que j'essaie de faire un peu de pub pour la Ligue. Mais dans les notes de la Ligue, à la fin des notes, il est toujours dit « Lisez tel psaume en priant maintenant ». Vous avez remarqué ça? Hein? C'était le psaume 48 ce matin pour ceux qui ne l'ont pas lu encore. Vous pourrez le lire. Et surtout la dernière ligne du psaume 48 qui m'a fait beaucoup de bien. Mais ne regardez pas maintenant. Vous regarderez à la maison, il y a quelqu'un qui regarde. Non, tout à l'heure. Hein? 48 est le dernier verset à la fin. Il nous amène par des prairies verdoyantes. Il me conduit au bord des eaux calmes. Vous ressentez la douceur de cela? Et la paix de cela? Quand il nous parle, il nous amène sur le bord des eaux calmes. Et tous les problèmes qu'on doit porter. On a parlé avec Hélène encore ce matin, au petit déjeuner, de tous les problèmes. Nous séparer d'un appartement qu'on aime beaucoup. Amener les choses qu'on ne veut pas laisser ici, malgré le fait qu'on vous aime. On les prendre avec nous. Mais on ne sait pas où on va les mettre. On ne sait pas où on va aller. Notre petite fille qui a ses problèmes qu'elle veut partager. Hélène qui a un rendez-vous très important avec le chirurgien mercredi, où dans sa lettre il a dit « Si on n'opère pas, je ne promets pas que les résultats ne soient pas très très sérieux. » Alors mes amis, on est devant cela et vous aussi. Nous on n'est pas les seuls. Hein? On n'est pas les seuls. Il vous amène par des eaux paisibles. Ça fait du bien, cela. L'Éternel est mon berger. Et je me suis permis de faire un peu de pub pour la cellule de Prévesaint ici. La cellule est un des endroits où le don de berger peut être exercé. Je ne vais pas dire sous-berger ou sous-sous-berger, mais on ne devient pas berger dans une assemblée avant d'avoir été berger. Vous avez compris? On ne devient pas berger dans une assemblée avant d'avoir été berger. C'est-à-dire, on commence ce ministère peut-être petitement, avec des tout jeunes, avec des infirmiers, comme avec mon infirmier ce matin, avec les voisins, tout doucement. Et en pratiquant ce ministère, ça se voit qu'on a un don de berger. Et dans les cellules, c'est extraordinaire de pouvoir vivre ce don de berger. Dans les cellules-là, on peut parler de ces problèmes. Au culte, on ne peut pas partager les problèmes, on est trop nombreux. Et puis, on ne connaît pas un tel. On ne sait pas s'il va en parler à tout le monde ou pas. Mais dans les cellules, c'est une occasion extraordinaire de vivre le don de berger, de prier ensemble pour les besoins des uns et des autres. Pas de prier comme les... Vous savez comment on prie quelquefois dans les milieux évangéliques? Comme les rudes prières des Tibétains. Vous voyez un peu le style? Ça sonne, et ça sonne, et ça sonne, et ça tourne, et ça tourne. Au lieu d'être une prière de conviction, de certitude, de promesse. Elle nous dit que je ne dois jamais parler d'elle, mais je suis cuit, moi. L'autre jour, elle m'a dit, quand je priais pour quelqu'un, tu n'as pas dû l'avoir beaucoup sur ton cœur. Pourquoi? Mais la manière dans laquelle tu as prié, tu aurais pu mettre tes bras autour de ses épaules. Vous voyez ça? On était juste trois personnes, pas plus. Mais dans la cellule, il y a l'occasion de vraiment partager l'amour du Seigneur. Dieu nous aime. Dieu t'aime. C'est bien de se téléphoner. Notre cellule a une liste de prières et de numéros de téléphone. J'espère que ce n'est pas pour rien. Hein? J'espère qu'on l'utilise et qu'on se téléphone les uns les autres. Disons, j'ai reçu un verset formidable du Seigneur ce matin qui m'a fait du bien. Est-ce que je peux le partager avec toi? Ça, c'est amener des brebis près des eaux paisibles. Et c'est cela que nous pouvons faire dans nos cellules. Et dans la cellule, on peut vivre des exaucements. Parce que dans la cellule, on peut vraiment croire que Dieu répond à la prière. Je me demande quelquefois si nous, les chrétiens évangéliques, moi compris, si on s'attend à ce que Dieu répond à la prière. On termine nos prières presque par « Et Seigneur, si tu ne réponds pas, aide-moi à être toujours proche de toi. » J'ai dit à ma petite fille hier, j'ai dit « Mes chéris, dans telles circonstances, où est-ce qu'il est le Seigneur ?» Où elle m'a repris, elle m'a dit « Tu ne penses pas que je vais laisser tomber le Seigneur parce que c'est difficile là ? Je suis proche du Seigneur et je veux le Seigneur dans ma vie. » Alors bien-aimés, partageons le Seigneur. Il y en a dans l'assemblée qui ont besoin de savoir qu'il y a un divin berger. Il y en a ce matin qui ont envie que vous leur serriez la main. Pas comme je le fais, moi je le fais, et les gens vont chez le chirurgien tout de suite après. Hein. Alors attention comment on le fait. Hein. Mais il y en a qui ont besoin de partager l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu prouve son amour envers nous. Et le divin berger est là pour cela. Et peut-être ce matin, nous sommes séparés du divin berger par quelque chose qui est arrivé dans nos vies. Quelque chose qu'on a permis d'entrer dans nos vies. Un mauvais esprit. Une attitude de critique. Une attitude de supériorité. Et nous pensons, mais le Seigneur ne va plus m'utiliser. Pas vrai. Ça, c'est un coup du diable, ça. Parce que la parole dit, toujours dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il y a besoin de guérison dans l'assemblée. On n'aime pas beaucoup parler de guérison parce qu'on dit, mais on n'est pas une assemblée de Pentecôte. Dans un sens, c'est dommage, parce que nous pouvons prier aussi pour la guérison physique. Et le Seigneur répondra de sa manière, pas de la mienne, mais de sa manière. Il y en a qui ont besoin de guérison spirituelle. Vous savez cela? C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Et peut-être qu'on a besoin de confesser au Seigneur quelle est la raison de ce châtiment, quelle est la raison pour laquelle on a dit telle et telle chose, et de le remettre au Seigneur. Peut-être le dire dans la cellule, c'est bien là parce qu'on peut avoir là le témoignage des frères et sœurs qui nous encouragent. Et personne dans les cellules a peur de dire « Amen ». On a peur de dire « Amen » au culte, mais pas dans la cellule. Hein. Alors, merci, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait ça. Je peux deviner. Mais le châtiment qui nous donne la paix bien-aimée est tombé sur lui. C'est vrai? On va voir comment dans un instant. Parce qu'il y en a qui ont terriblement besoin de guérison. Et cette guérison, j'aimerais vous dire, vient par mes mains et tes mains. Vient par ton regard et mon regard. Comment est-ce que vous regardez les gens? Par mon amour et ton amour. Le Seigneur ne peut pas le faire autrement. Hein? On est dans un monde, il a créé des hommes et des femmes. Et nous sommes à son service. Alors j'aimerais dire que si quelqu'un a un souvenir qui lui fait mal, il ne faut pas le refouler dans notre mémoire passée, mais le partager avec un ancien de l'Assemblée, le partager avec un homme de Dieu, une femme de Dieu. Il y a des sœurs qui sont bergères dans l'Assemblée. Moi, je n'ai pas à vous dire qui. Vous les reconnaîtrez par leur travail. Vous le reconnaîtrez pas si vous avez confiance d'aller parler avec elle. Et c'est important qu'il ait des bergers dans l'Assemblée, parce que les sœurs ont besoin de pouvoir parler avec quelqu'un. Mais soyons prêts à confesser cet éloignement du Seigneur. Mon ami Fernand Legrand, vous vous souvenez de Fernand Legrand qui insistait quand il parlait avec un petit bégaiement qui arrivait au bon moment. Et il racontait souvent des histoires. Et une histoire qu'il a racontée, j'ai trouvé formidable. Il parlait d'une usine de fil de coton en Angleterre qu'il avait rendu visite et où il y avait une annonce disant « Si jamais votre machine s'entremêle, appelez de suite le contremaître. Ne faites rien d'autre. » Et un jour, il y a une femme qui a eu des problèmes et les fils se sont entremêlés. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a fait vraiment de son mieux. Et avec le fait qu'elle faisait de son mieux, vous savez ce qui est arrivé? Vous pouvez deviner, mais je n'ai presque pas besoin de vous le dire. Hein? En faisant de son mieux, c'est le pire qui est arrivé. Hein? Le pire qui est arrivé. Et finalement, elle a dû appeler le contremaître pour qu'il vienne. Elle a dit, mais j'ai vraiment fait de mon mieux pour résoudre le problème, mais j'ai besoin de vous quand même. Il a dit, j'aimerais bien que la prochaine fois, vous faites vraiment de votre mieux, et en faisant de votre mieux, que vous m'appeliez de suite, et vous arrêtez d'intervenir. Est-ce que c'est ça que le Seigneur nous dit ce matin? Arrête d'essayer de sortir toi-même de ton problème, et appelle-moi de suite. Je suis le bon berger, et le bon berger, il n'a jamais, jamais jugé des gens ou critiqué les gens. J'aimerais vous parler en concluant de cette bergerie au Moyen-Orient, cette bergerie avec probablement 3 troupeaux et probablement 3 bergers qui étaient là. Et c'était la nuit. La porte était fermée. Et sortir de la bergerie la nuit, on pouvait être effrayé. Moi, j'ai traversé le désert là-bas plusieurs fois. Et la première fois, le chauffeur m'a dit, j'aimerais arrêter la voiture. J'espérais que la voiture n'était pas en panne. Il a ouvert les fenêtres. Il a dit, écoutez, il ne faut pas attendre longtemps pour entendre les bêtes sauvages qui sont là. Alors c'était ça le climat, ça l'environnement. Et ces bergers, le soir, ont compté leurs brebis, ont trouvé 99 brebis et moutons, mais une manquée à l'appel. Est-ce qu'il y en a un qui manque à l'appel ce matin? Le Seigneur t'appelle pour que tu viennes à lui, que tu le connaisses comme sauveur, penser le châtiment sur lui, tes blessures sont guéries, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu hésites? Est-ce que tu hésites de répondre à l'appel du Seigneur pour le servir, pour être disponible dans son service? Les brebis nous ressemblent pas mal. Oh, n'allez, soyez pas fâchés avec moi. Ce sont des bêtes assez simplistes, comme vous et moi. Alors, je vois qu'il y en a qui se regardent. Les brebis sont comme cela. Elles s'égarent facilement. Elles ne se rendent pas compte des dangers et peuvent s'éloigner de plus en plus. Et dans cette parabole, il y en a une qui s'est éloigné en suivant son propre chemin. Est-ce que, bien-aimé, tu t'éloignes en suivant ton propre chemin? Et en peut-être toute bonne raison que tu peux sortir, toute logique que tu peux sortir, mais ton propre chemin va être peut-être similaire à ce qui est arrivé à cette brebis, qui est arrivé sur une saillie, une espèce d'étagère qui sortait du rocher et qui dominait la vallée d'une centaine de mètres. Et la brebis avait peur, elle n'arrivait pas à se retourner. Elle s'est couchée là, sachant qu'elle ne pouvait pas aller plus loin, que si elle bougeait, que c'était la mort qui était là, que si elle restait là, qu'une bête sauvage pourrait venir la dévorer, des serpents la dévorer, autre chose, un faux pas, et là-haut à la bergerie, il y avait le bon berger. Le bon berger, plein de bonté. Et parce qu'il y en avait une qui manquait, il est sorti, il a suivi le chemin, il s'est fait mal dans le chemin. Ses mains ont été meurtries par les épines, par les pics. Ses jambes, parce qu'il portait souvent des shorts à ce moment-là, par les robes dont on a les illustrations bibliques, et ses jambes saignaient. Mais la brebis, comptait pour lui. Et le divin berger a voulu aller jusqu'au bout pour trouver la brebis. Et c'est ça qu'il fait ce matin pour quelqu'un ici. Il vient jusqu'au bout pour te trouver. Oh, tu t'es éloigné du chemin, dans ton cœur, peut-être pas ouvertement. Tu t'es refroidi à cause de circonstances dont personne n'a vraiment la solution. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu as suivi ta propre voie. Et le Seigneur dit, je t'aime. Je suis le bon berger. Et peut-être tu es venu ce matin en n'ayant jamais, jamais, jamais rencontré le bon berger personnellement et il veut venir vers toi. Le bon berger retrouve cette brebis, il la prend entre ses mains, il la met sur son épaule, il ne la gronde pas, vous m'entendez? Il ne la gronde pas. Nous, comme sous-bergers, nous ne sommes pas là pour gronder les gens, mais pour les aimer. Et le divin berger ne gronde pas, Il est là pour nous aimer. Il la prend dans ses bras, la réchauffe parce qu'elle doit avoir froid là. Et puis, il la prend dans ce chemin de délivrance à travers des haies de boissons. Mais il l'a sauvée. Il l'a sauvée. Bien-aimé, ta vie chrétienne est arrêtée à cause des circonstances. Ne reste pas là. Tu es dans une situation dangereuse. Si on s'éloigne du Seigneur, on continue de s'éloigner. Ne faites pas cela. Reviens vers le bon berger. Peut-être tu es quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur. Alors j'aimerais juste dire trois choses en concluant. Tout à l'heure, nous allons prendre la scène ensemble. À cause de certaines circonstances, je n'ai pas pu demander à quelqu'un de venir m'aider. Mais je vais laisser la place libre pour que plusieurs viennent. Alors n'attendez pas, quand ce serait le moment de rendre grâce, tu te lèves et tu viens, même si tu ne l'as jamais fait avant, si tu connais le Seigneur comme ton sauveur. Alors peut-être ce matin, c'est la première brebis à laquelle j'aimerais m'adresser. Peut-être tu t'es éloigné et peut-être tu penses que ta vie ne vaut pas grand-chose. Peut-être tu penses que ta vie ne vaut pas grand-chose, mais pour le divin berger, tu es précieux à ses yeux. Tu es précieux, toi, à ses yeux. Tu m'entends, toi? Tu es précieux à ses yeux. Tu n'as pas à rester comme cela, au point mort. Tu es précieux à ses yeux. Et il te dit, je t'ai choisi, toi, pour que tu ailles et que tu portes du fruit et que le fruit demeure. Alors ne reste pas éloigné. Si toute cette assemblée était composée de bergers, de sous-bergers, de sous-sous-bergers, de sous-sous-sous-sous-bergers en train d'apprendre. Moi, je me mets avec les sous-sous-sous, je suis toujours en train d'apprendre. Et vous verrez combien on serait béni. Il y aura la moitié de la ville de Pressin dans la salle en attendant que l'autre moitié se convertisse. Vous voyez comment ça pourrait se passer? Ma femme me dit de ne pas être marseillais, je ne vais pas l'être. Mais il y en a ici qui attend. Il y en a quelqu'un là qui l'attend. Sois disponible. Peut-être, et en disant ceci, je me regarde moi. Je ne regarde personne d'autre. Peut-être que j'ai blessé une autre brebis, comme Ézéchiel le dit. Que certaines bêtes du troupeau, les 99 justes, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi, que nous avons blessé les plus faibles avec nos cornes, par notre manière de parler. Vous savez, quand j'ai commencé le service du Seigneur à plein temps, j'ai eu besoin de désapprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'avais enseigné et je pense avoir toutes les réponses. J'ai dû arrêter cela et ne pas blesser, mais aimer. Est-ce que le Seigneur est en train de te chercher comme brebis aujourd'hui pour que tu viennes vers lui et que tu le remercies de tout ce qu'il a été pour toi? En attendant que les amis auxquels le Seigneur a parlé pour introduire la scène, en attendant que vous veniez devant, je vous prie de ne pas attendre, mais venez à plusieurs, qui est 3, 4, 5, 6, c'est bien. Ce n'est pas ça le problème, c'est ça la joie. Mais en attendant, je vais demander à notre sœur d'être là derrière son instrument. On va chanter le 84 tel que je suis. Ça va apparaître sur le tableau. Permettez-moi de lire ces paroles de la première strophe pour que tu puisses les faire les tiennes. Quelqu'un va les saisir comme ces paroles ce matin. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. J'aimerais que pendant que les amis viennent, assis, nous chantions cette première strophe, doucement, mais du cœur, quelqu'un qui ne l'a pas dit depuis longtemps, quelqu'un qui a eu des nœuds dans sa vie, ça t'a empêché de servir le Seigneur dans l'assemblée, quelqu'un qui a des hicks. Alors, tel que je suis, sans rien à moi, on va chanter ce chant du 84 et là, au tableau. Alors moi j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui viennent avec nous, même si c'est eux qui prient tout à l'heure. Venez avec nous pour distribuer la scène et témoigner que toi aussi tu t'unis autour de la table du Seigneur, même si tu es vacillant. On chante la deuxième strophe.
Merci Seigneur Jésus, tu es notre berger, tu as payé le prix à la croix pour nous délivrer de tout mal. Merci parce que tu nous aimes tels que nous sommes. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Sois béni, sois adoré. Amen.
Oui, Seigneur Jésus, merci parce que toi qui es Dieu, tu as donné ton sang afin que nous soyons purifiés, rachetés. Sois loué, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci parce que tu désires faire de chacun de nous tes enfants. Sois loué, Seigneur, parce que c'est vrai que tu es notre berger, notre bon berger, celui qui prend soin de nous. Merci, Seigneur, pour ton œuvre de salut accomplie à la croix qui est parfaite. Sois loué, sois béni, Seigneur. Amen.
Je relis la quatrième strophe de ce chant. Est-ce qu'on est passé chez toi ou pas encore? Oui, bien. Je relis la quatrième strophe et que ce soit un moment de décision pour quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui dit maintenant... Je veux donner ma vie au Seigneur sans réserve. Oh, je reviens vers toi, ça peut t'en des deux. Et que ce matin, ça soit concluant. Si c'est le cas, venez le dire à un des anciens, des responsables, une femme de responsable, quelqu'un que tu connais pour qu'on prie avec toi. Je relis ça et puis Jean-Paul va faire les annonces. Tel que je suis. Pas formidable ça? Tel que je suis. Ton grand amour a tout pardonné, sans retour. Je veux être à toi dès ce jour. Agneau de Dieu, je viens. Je viens. un moment de silence et de prière dans le silence.
Je vais juste vous donner une anecdote parce que Brian ne sait pas. Enfin, si, il le sait sûrement, mais il a sûrement, puisqu'il a un âge avancé, Brian aussi, il l'a sûrement oublié. Et la première fois que j'ai, enfin, je vais d'abord vous dire l'importance qu'a rappelé Brian aujourd'hui d'écouter Dieu, d'être à l'écoute de ce que Dieu nous dit. La première fois que j'ai vu Brian, il doit y avoir 50 ans. Ça ne me rajeunit pas non plus, Brian. C'était dans le grenier chez moi. Et c'était un séminaire, une table ronde sur la prière. Et je me souviens que la personne qui animait cette table ronde, c'était Gérard Payon, qui avait posé la question, quelle est la première chose qu'on doit faire quand on prie? Et Brian avait répondu, d'abord se taire. Ça m'avait marqué, c'est la première parole que j'ai entendue de toi. Et aujourd'hui, j'entends la même. C'est la preuve que Dieu a bien fait son travail et continue. Voilà, l'importance d'écouter Dieu et d'être vraiment à l'écoute et à l'entendre de ce qu'il nous dit.